Bon midi, les amis. Déjà midi 2 minutes. Ouf, le midi, j'ai le taux. On va dire le midi Pablo. Ça va pas bien pour notre ami Pablo Rodriguez. Ça continue de débouler. Des textos incriminants qui ont sorti ce matin par le bureau d'enquête de Québécois. Là, il est obligé de caller un point de presse pour midi 45. Évidemment, vous comprendrez qu'on va vous présenter une majeure partie de ce point de presse-là tout à l'heure en direct. Et là, il y a l'ancienne chef de cabinet Geneviève Hines qui vient de réagir. Donc, je vais commencer de la bonne façon en vous disant 418-971-1021 pour réagir, en vous disant qu'on est disponible sur l'application Boulevard 102.1, sur la web radio au boulevard.fm et sur twitch.tv/BLVD/FM. Deuxième chose très importante à faire, je vais saluer Pascal CV. Comment vas-tu, Pascal CV?
Ça va.
Oups, j'ai ouvert ton micro. Moi?
Ça va très bien, bon, merci.
Hey, là, Pablo me déstabilise, non, c'est vrai.
Non, mais c'est le Parti libéral, je trouve, qui en souffre encore plus que Pablo Rodriguez. Il était au courant de quoi, on le sait pas. Anthony Niacarini va nous offrir une super analyse dans quelques minutes.
C'est
mais
clair.
Pas facile.
Non, exactement. Est-ce que tu as ce que Geneviève Hines vient de publier?
Exact. Juste avant de rentrer en onde, j'étais là-dessus, tu le sais bien. Donc, Geneviève Hines, ex-directrice cabinet de Marois Risky, qui s'est fait montrer la porte par Marois Risky sans avoir demandé la permission et ou avoir laissé, en fait, Pablo Rodriguez prendre cette action-là, sinon ne pas la prendre, a commenté il y a quelques minutes la situation. Elle dit qu'elle est, et je cite, okay, je suis évidemment blessée par cette situation, d'autant que je suis convaincue que rien ne justifiait mon congédiement. J'ai l'intention de me défendre vigoureusement et j'évalue tous les recours à ma disposition. Geneviève Hines, ex-directrice cabinet de Marois.
Donc, ça continue de brasser. Ça fait suite, justement, à la déclaration de Pablo Rodriguez ce matin où il mentionnait les allégations publiées aujourd'hui par des allégations publiées dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, sont graves parce que nous prenons cette situation extrêmement au sérieux, que nous voulons faire toute la lumière. J'ai demandé au président du Parti libéral du Québec de mandater une firme externe et entièrement indépendante afin de mener une enquête complète, analyser l'ensemble des faits et établir clairement les conclusions qui s'imposent. En parlant de ça, ben ça me fait penser, on va s'en aller directement au...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Niacarini.
Antonin Niacarini en direct de Rimouski. Anto, on s'attendait à une petite semaine tranquille en politique. Christian Dubé est allé se faire d'Oraquin en Floride. Les gens travaillaient dans leur circonscription. Puis là, pataf, catastrophe libérale hier.
Écoute, c'est une énorme bombe, là, cette histoire-là. Hier, on pensait que c'était une histoire de bisbille entre Marois Risky et, j'ai envie de dire, la gang de Pablo Rodriguez. Mais là, on enlève les couches de l'oignon une après l'autre et c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple conflit de personnalité, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Le Journal de Montréal, le Bureau d'enquête de Québecor, a sorti des captures d'écran de textos qui font mention de paiement de 100 $, des brownies, comme ils disent dans cette discussion.
Mais des brownies, c'est pas des petits gâteaux, ça?
Ah non, t'es naïf. Ah, il s'agit de 100 $. Hey! Donc, 100 $ qu'on aurait payé à des gens en échange de leur vote pour Pablo Rodriguez. Donc ça, premièrement, c'est complètement illégal. Évidemment, vous ne pouvez pas être payé pour voter pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas avoir quoi que ce soit en échange de votre vote. Et il n'y a personne d'autre qui peut payer pour vos cartes de membre non plus. Hein. Mm-hmm. Sachez-le, de payer pour la carte de membre d'un parti politique pour quelqu'un d'autre, ça va à l'encontre de la loi électorale, évidemment. Là, quand on apprend ça ce matin, on comprend un peu mieux pourquoi tout le monde était bardé d'avocats là, hier. On n'était plus seulement dans des questions de diffamation et de réputation liées à de la bisbille. On était carrément dans des affaires de malversation. Il y a des allégations très graves qui circulent en ce moment. Et ce matin, Jonathan Trudeau, là, à l'antenne du 98.5, s'est avancé sur des noms. Donc, les gens qui discutaient dans ces captures d'écran de texto, selon ses dires et selon plusieurs sources, là, il a quand même dit qu'il avait une dizaine de sources, c'était la députée de Chomedey, la députée libérale Sona Lakoyan-Olivier.
Bon, jusque-là, une députée libérale, ça va, c'est les libéraux. Elle a appuyé Pablo Rodriguez, elle veut que Pablo passe. Fait que là, bon, non, c'est de la corruption libérale.
Écoute, je te trouve bien à l'aise avec ça, mais oui, jusque-là, ça peut toujours aller. Mais le deuxième nom qui a été avancé, là, selon les sources de Jonathan Trudeau, c'est une députée caquiste. Alors là, tu te dis, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Et c'est pour ça que je vous dis que l'histoire est très compliquée, là, de nombreuses couches. Donc, il s'agirait d'Alice Abou-Khalil, une députée de Laval, la circonscription voisine de celle de Mme Lakoyan-Olivier. Depuis tout ça, depuis ce matin, les deux députés ont publié des démentis. Donc, les deux députés démentent avec véhémence que ce sont elles qui sont dans ces discussions texto. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'article de journal, là, c'est écrit dans un franglais épouvantable. J'avais les yeux qui saignaient. Il y a une enquête du Parti libéral qui a été déclenchée aujourd'hui, mais ça mériterait quasiment une enquête de l'OQLF aussi, cette affaire-là, c'est terrible. Mais bon, du côté de la CAQ, on dit qu'on n'exclura pas Mme Alice Abou-Khalil du caucus parce qu'elle nie vraiment en bloc ces allégations-là. Donc, évidemment que ça rajoute du croustillant à l'histoire, mais il y a tellement de sous-histoires dans cette histoire-là qu'on a du mal, hein, des fois, à se dire, écoute, c'est quoi le nœud de l'affaire, finalement? Parce que même j'ai des gens, des sources libérales qui me disent que cette histoire de vote qu'on a payé, des gens qu'on a payé pour voter pour Pablo Rodriguez, ça n'aurait pas nécessairement un rapport avec le congédiement de Geneviève Hinds. Bon, j'ai de la misère à croire ça. Mais hier, là, la faute grave que Marois Risky prétextait pour le congédiement de Geneviève Hinds, c'était liée à l'utilisation de fonds publics à des fins partisanes. Ça veut dire que tu prends ton budget, toi, tu as un cabinet là, à l'Assemblée nationale de l'opposition officielle, c'est de l'argent public là, qui paye des salaires. Mais là, toi, tu as pris ce budget-là et tu l'as utilisé pour des activités du parti, donc des activités partisanes, et c'est interdit. Il y a plusieurs partis au fil du temps qui ont été pris à faire ça, le PQ, la CAQ aussi, en passant. Là, et j'ai des souvenirs de ça, des gens qu'on a payés pour faire du travail partisan, mm-hmm. mais avec des fonds publics. Et donc pour... ça, c'était ce que Marois Risky a dit.
Oui, voilà. Et pour fin de comparatif, c'est exactement pourquoi Marine Le Pen en France ne peut oui. plus se présenter. C'est parce qu'elle a pris de l'argent fournie par l'État et elle s'est payée des gens qui ont travaillé de façon partisane pour aller faire sortir exact. Le vote, pour justement créer de la visibilité pour le parti, alors que ça doit servir pour de la recherche et du travail parlementaire.
Exactement. Puis quand tu veux faire des activités partisanes, cet argent-là, c'est l'argent des dons. C'est les dons que tu vas ramasser auprès de tes militants et des électeurs qui sont censés servir à des fins partisanes. Mais évidemment, il y a plein de choses qui circulent. Les rumeurs, ça n'arrête pas. J'ai des textos dans mon cellulaire. C'est très difficile de déterminer le vrai du faux. Mais il faut qu'on parle de comment Pablo Rodriguez lui-même a réagi face à tout ça. Parce que c'est son premier test de leadership, vraiment, à Pablo Rodriguez. C'est une crise. Et ces textos-là, ils circulaient depuis plusieurs jours déjà. Donc, là, aujourd'hui, on fait un point de presse, tralala, on nous annonce une enquête interne au Parti libéral là-dessus. Il y avait des informations qui étaient déjà en main. Moi, je dois dire, là, Jeff, que je trouve qu'ils n'ont pas été très proactifs. Là, on attend, dans le fond, quelque chose sort dans les médias et on réagit par la suite. C'est difficile de ne pas poser l'hypothèse que Marois Risky et Geneviève Hinds avaient des désaccords sur la manière de gérer cette situation-là quand on entend des allégations comme celle-là. Et c'est pas évident à gérer quand c'est juste des allégations puis que la personne nous dit « Non, c'est pas vrai ce que vous entendez. » Par exemple, cette députée de Chomedey là, qui dit que c'est pas elle dans les textos. Est-ce que tu l'exclus le temps qu'il y ait une enquête du DGE et l'enquête du parti? Parce qu'il y a un enjeu, si c'est pas vrai, de finalement salir sa réputation. Mm-hmm. Donc, c'est quand même délicat. Mais du côté de Pablo Rodriguez, on a vraiment décidé d'y aller un peu de manière réactive et on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de transparence de sa part.
Antonine, dans les réfutations, OK, d'accusations actuellement, c'est vrai, comme tu as dit, on est catégorique, là, on réfute. On dit qu'on n'a rien à voir là-dedans, que ce ne sont pas nos textos, que ce ne sont pas nos affaires. Est-ce qu'on est dans, une joute politique en ce moment pour essayer de se dissocier, mais en même temps, ça pourrait avoir des impacts très, très forts au niveau de la justice de nier ça en ce moment si jamais il y a des preuves comme quoi elles ont effectivement ces deux députés-là fait des niaiseries politiques, là, puis ça, c'est mon mot est pesé, là.
Ben, t'as 100% raison. C'est que des fois, quand tu es en gestion de crise dans ce type-là, c'est que les enjeux juridiques entrent en contradiction avec les enjeux politiques. C'est-à-dire que, idéalement, quand tu fais de la politique, tu veux être transparent, sortir toute la vérité rapidement parce que tu veux pas que ce soit un supplice de la goutte. Hein? Là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'à tous les jours, il va y avoir des petites informations nouvelles qui vont sortir dans le journal. Il y a une autre source qui va parler. Là, on tombe dans le supplice de la goutte. Bien, une bonne gestion de crise, c'est de dire, écoutez, là, on va faire toute la lumière là-dessus. Moi, je vais vous donner toutes les informations. Je vais collaborer avec les DGE. C'est inacceptable, les gestes qui ont été posés. Puis on va s'assurer que les gens qui ont fait, s'il y a eu des gestes, que les gens soient punis. Mais là, entre en jeu, évidemment, les questions juridiques. C'est-à-dire que quand je lis les réfutations des deux députés, bon, premièrement, je trouve que le langage est très similaire entre les deux publications, entre Alice Aboukhalil et Sona Lakoyan. J'ai l'impression que des avocats sont passés là-dessus. Je vous le dis, là,
d'après moi, il y a deux phrases qui sont pareilles. Alors, assurément que ça a été une consultation. En tout cas, de ma part, je suis d'accord avec toi, là. Si deux phrases sont exactement pareilles dans leur témoignage, probablement qu'il y a un petit calcul d'avocat derrière.
Puis, tu sais, hier, Marois Risquier est sortie de la rencontre, là, de la fameuse porte de laquelle on parlait hier, Jeff, et elle a dit « j'ai pas de commentaires à faire ». Et c'est extrêmement rare que des politiciens vont répondre ça, à moins que ce soit par maladresse, parce que ça a l'air fou. Ça a toujours l'air très, très grave quand quelqu'un dit « pas de commentaires ». Mais probablement que c'était un conseil d'avocat. Et aujourd'hui, on comprend mieux aussi pourquoi là, on n'avait pas tant de commentaires à faire, parce qu'on est vraiment dans des allégations extrêmement graves d'avoir payé des gens pour voter pour Pablo Rodriguez. Évidemment, un paquet de questions là, qui demeurent. Qui était au courant? Qu'est-ce que Geneviève Hinds savait? Est-ce que son congédiement a un lien avec tout ça? On a essayé de balayer sous le tapis, puis on pensait que peut-être qu'on allait s'en sortir en faisant juste mettre la directrice de cabinet à la porte. Donc, pour l'instant, ça paraît très, très mal là, de la part de la gestion de Pablo Rodriguez.
Bonne gestion de crise, Antonine, puis je sais que tu donnes des formations là-dessus. Est-ce que Pablo Rodriguez aurait dû sortir dès la fin de la semaine dernière, quand il était au courant de ces textos-là, et dire « j'ai mandaté le DGE pour faire la lumière là-dessus, c'est l'instance démocratique qui fait ce type d'enquête-là. S'il y a lieu, l'UPAC va s'en mêler et jamais on ne va tolérer ça au Parti libéral? »
Ben oui, mais c'est sûr que c'est difficile. Pensez-y, là. Tu dis, moi, je vais sortir proactivement. Je vais par exemple, convoquer une conférence de presse. Puis là, personne n'est au courant encore de ça, mais là, je vais dire, j'ai eu vent qu'il y avait eu peut-être des gestes répréhensibles qui ont été posés. Je ne pense pas que c'est le cas, mais je veux m'assurer de faire toute la lumière là-dessus. Ben, c'est sûr qu'entre la peste et le choléra, comme on dit, là, entre deux affaires, pas le fun, c'est la meilleure des stratégies. En gestion de crise, tu l'as dit, c'est une de mes expertises, la gestion de crise. Il faut que tu dises toute la vérité le plus rapidement possible et toi-même. C'est comme ça que tu réussis à t'en sortir. Et c'est pas facile, toujours. La vérité n'est pas toujours le fun à dire, là. Mais c'est toujours préférable que le supplice de la goutte qu'on voit. Là, ça fait seulement deux jours et c'est catastrophique. Puis, je veux juste rappeler. Hier, Pablo Rodriguez a dit « Moi, j'ai tout le caucus derrière moi. » Et il nous a jamais parlé de ses affaires de texto, là, et de tout ça, alors qu'il était très au courant. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on revisite ses propos d'hier, puis on se dit « Ben là, franchement, il y a un manque d'honnêteté ici. » La transparence s'arrêtait de dire « Écoutez, il se passe ça, voici, on va faire une enquête. » Et l'enquête, ben moi, j'aurais aimé qu'elle ait été déclenchée la semaine passée, quitte à ce que ça... Peut-être que ça n'aurait pas été annoncé, mais qu'aujourd'hui, on nous dise « Effectivement, on était déjà là-dessus parce que c'est quelque chose qui est inacceptable de mon côté, puis je voulais être sûre de faire toute la lumière. » Donc, il y a déjà plusieurs jours, dès que j'ai su, on a déclenché une enquête à l'interne. Mais là, on a l'air simplement en réaction à espérer qu'il n'y ait pas d'autres choses qui sortent dans le journal, puis après ça, réagir à ce qui sort dans le journal, c'est jamais une bonne stratégie.
Parce qu'en sortant proactivement, en plus, on aurait pu reprendre les commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait traité les libéraux de corrompus, puis dire, vous voyez, on n'est plus des corrompus, on travaille pour la vérité.
Écoute, on repense à ces propos-là qui avaient quand même soulevé un peu d'indignation. Ben là, franchement, là, c'est les libéraux du passé. Il doit rire un peu, Paul Saint-Pierre Plamondon, en ce moment, de s'être fait attaquer là-dessus. Mais oui, effectivement, il faut que tu montres une transparence qui est irréprochable. Et c'est plate à dire, là, mais les libéraux ont un passif quand on parle de corruption, de collusion, de malversation. Il y a toujours une espèce de doute qui est resté parce que finalement, les allégations de l'époque Charest, ça n'a jamais abouti sur des accusations ou des condamnations. Donc, ça a toujours un peu été en suspens, ça flotte dans l'air. Et les libéraux, puis tu sais, je veux dire, moi, j'en ai des amis libéraux dans la vie, là. Honnêtement, ils trouvent ça difficile parce qu'il y a un paquet de gens super honnêtes qui travaillent en politique et c'est le genre de situation qui éclabousse tout le monde finalement dans une formation politique. Puis j'ai envie de dire, surtout les gens qui travaillent en politique, parce qu'évidemment, on va avoir probablement des textos de gens qui vont dire ils sont tous pareils, c'est toujours des tout croches, etc., etc. C'est très mauvais pour le cynisme, mais particulièrement le Parti libéral, ils ont ça à porter comme réputation. Il faut qu'ils soient irréprochables. Et honnêtement, j'ai pas été impressionnée par la gestion de Pablo Rodriguez depuis le début de cette affaire-là.
Vous êtes dans le segment Le Caucus avec Antonine Iacarini du lundi au jeudi dans l'émission On en jase. Pour ceux qui ne se souviennent pas des commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon, les voici.
C'est qu'un Parti libéral du Québec qui fait des campagnes de peur.
Alors, des gouvernements affairistes et corrompus, avait-il dit Paul Saint-Pierre Plamondon.
Il aurait pu sortir ça ce matin, hein, juste sans contexte. Il publie
c'est
juste
ça.
La vidéo
ouais,
comme ça.
Voici ça, c'est ça. Ben justement, ça me fait penser, avant de passer au point de la mise à jour économique, comment on va s'en sortir du côté des libéraux? Là, premièrement, Pablo Rodriguez s'en vient en conférence de presse. J'imagine qu'il ne répondra pas de questions, là. Il va faire une déclaration puis il va se sauver, là.
Ben, tu imagines bien, mais il devrait répondre à toutes les questions et lui devrait nous présenter exactement la séquence d'événements. Tout le brouillard là, dont on parle depuis tantôt, puis les raisons de Geneviève Vince, puis pourquoi Marois Risky a fait ça, au lieu de nous laisser dans la spéculation, parce que moi, j'arrête pas de spéculer, je me dis, Marois Risky, elle a vu ça arriver, elle a dit là, il faut qu'on fasse quelque chose, mais peut-être que c'est pas ça qui s'est passé. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé de A à Z, là.
En effet, parce que tu sais, pour que Marois Risky, tu le disais bien tantôt, ne dise pas de commentaires, c'est parce qu'il y a des avocats qui disent tu parles pas. Puis s'il y a des avocats qui disent tu parles pas, c'est parce qu'elle détient de l'information qui est potentiellement incriminant. Alors, il y a quelque chose de gros qui se cache derrière ça. Mis à part ça, c'est retour à l'Assemblée nationale mardi prochain. Hey, ils vont se faire attaquer, ça n'aura pas de sens.
Ben oui, puis là, un nouveau chef parlementaire du côté des libéraux, André Fortin, je ne sais pas s'il y avait ça sur sa carte de bingo, être chef parlementaire puis gérer la plus grosse crise que le PLQ ait eue depuis des
Il a
années.
appuyé Charles Milliard en plus.
Hey, écoute, il va dire, Colin, on s'est acheté un paquet de troupes. Mais je te le dis, là, je ne veux pas tomber dans les théories du complot, mais j'ai quand même quelques personnes proches des cercles libéraux qui me disent. Tu sais, il ne faut pas sous-estimer aussi qu'à travers tout ça, à la fin d'une course à la direction, d'une course à la chefferie dans un parti, ça crée des déchirements, ça crée de l'animosité à l'interne. Et il y a ça aussi qui se mélange à cette histoire-là. Je pense qu'il y a des gens qui prennent un peu plaisir dans les rangs libéraux à nuire activement à Pablo Rodriguez parce qu'ils considèrent que les militants ont fait le mauvais choix. Je ne te dis pas que ce n'est pas vrai, les allégations. Mais tu vois que ça pousse là, en ce moment-là. On en reçoit là, des messages de libéraux, puis ça nous envoie tout ça. Ça relaie le potinage de beaucoup, je te dirais.
Ben, il y a 48% des membres libéraux qui ont décidé de ne pas voter pour Pablo Rodriguez. Donc, il y a pratiquement la moitié des membres aujourd'hui qui se tapent des mains et qui disent « Ah ah, on savait que c'était pas le bon cheval de bataille. »
Mais à quel point? Parce que le parti est quand même touché là-dedans. T'sais, Antonine, tu as toujours
bon
le chef X, là, puis tu as le parti aussi qui en souffre en ce moment.
Oui, absolument. Puis c'est sûr que le message qui est relayé en ce moment à travers dans les rangs, c'est qu'il faut être unis, il faut s'unir, etc. Mais on sent tellement qu'il y a un déchirement qui est assez profond en ce moment au sein du Parti libéral. Un parti qui nous a habitués à être assez sur la ligne de parti. C'est le parti des chicanes, c'était tout le temps le PQ. Hein. Donc, peut-être qu'ils ont moins l'habitude aussi, puis que ça explique leur mauvaise gestion, mais en termes de gestion de crise, je vous dirais que ça n'a pas scoré très fort selon mes analyses.
Ah, c'est complètement le monde à l'envers. Le PQ vient de faire un congrès où tout le monde dansait la valse ensemble de la souveraineté, puis on était heureux. Le livre bleu, on était tellement heureux du livre bleu que Mélanie Joly a dit « On donne notre province à Donald Trump! » Imagine, pendant ce temps-là, les libéraux s'entendent entre déchets. On va revenir un peu à la CAQ, mise à jour économique qui aura lieu mardi prochain, 25 novembre. Moi, je te fais une prédiction, Antonine. On va retirer une taxe sur l'essence pour plaire à la population. C'est la prochaine étape du côté de la CAQ. Ça va faire partie de la mise à jour économique parce qu'on va avoir des bonnes nouvelles économiques. Le déficit va être moins important que prévu. On va avoir réussi des coupures comme on avait promis. Donc, on va dire, au lieu d'envoyer des chèques, parce que ça, ça a déjà été fait une fois, fait que là, on n'a pas le choix de trouver d'autres choses, on va retirer une taxe sur l'essence. Qu'est-ce que tu penses de ma prédiction?
Ben, je pense que les gens qui t'écoutent en ce moment vont dire « J'aimerais vraiment sûr que la prédiction de Jeff se réalise » parce que tout le monde aimerait avoir un petit break pour son portefeuille.
Hey, mais, hein.
C'est le message aussi que le gouvernement a comme laissé flotter en annonçant la date de la mise à jour économique, qu'on allait soulager le portefeuille. Mais en même temps, on nous dit du côté du gouvernement qu'on ne fera pas de mesures électoralistes. Donc, des chèques. On s'entend que bon, c'est comme s'ils avaient admis eux-mêmes que c'était une mesure électoraliste en disant ça. Mais je pense pas qu'effectivement, ça va être des chèques. On nous parle que ce ne serait pas une baisse d'impôts ou une baisse de taxes. Mais la taxe sur l'essence, effectivement, ça avait été abordé. Il faut se rappeler aussi que quand le fédéral a abandonné la taxe carbone, la fameuse taxe carbone de Justin Trudeau, François Legault avait dit « on va regarder ça » parce que là, ça n'a pas de bon sens que les Québécois soient les seuls, les dindons de la farce à payer pendant que tout le monde est en train d'enlever ses taxes carbone puis sa tarification pour la pollution.
Oui, puis là, je reviens toujours à la fameuse région de l'Outaouais, mais c'est parce que c'est tellement facile comme image. Il y a un pont qui sépare Gatineau d'Ottawa. Je sais, là, je vais faire un peu de brag. J'ai déjà couru le marathon deux fois, fait qu'on passe sur le pont entre Gatineau et Ottawa. Et ben là, t'sais, les médecins traversent ce pont-là, puis ils font « Ah, regardons ça! » J'ai un meilleur salaire et des meilleures conditions. Puis là, les automobilistes traversent ce pont-là et disent « Hein? L'essence coûte 25 cents de moins du litre! »
C'est frappant là, tu sais, de voir la différence. Par contre, ce qui est un petit peu plus compliqué pour notre taxe carbone à nous versus celle du fédéral, c'est qu'on fait partie de ce qu'on appelle la bourse du carbone. Mm-hmm. C'est compliqué, je ne me tente pas de rentrer dans les grandes explications, mais ça créerait beaucoup d'instabilité de se retirer de la bourse du carbone. Donc, je pense que François Legault cherchait, avec son ministre des Finances, une manière d'alléger sans sortir de la bourse carbone. Donc, j'ai bien hâte de voir sur quelles solutions ils vont peut-être arriver. Mais c'est intéressant parce que Éric Girard, ministre des Finances depuis maintenant 7 ans, si on commence à le connaître, il est très prudent. C'est quelqu'un de nature prudente qui n'aime pas prendre beaucoup de risques. Et je pense aussi que tout ministre des Finances aimerait tendre vers l'équilibre budgétaire. Là. Honnêtement, c'est pas facile ces temps-ci au niveau de l'équilibre budgétaire. Mais ça, là, ça va être la couverture sur laquelle Éric Girard va tirer, là, c'est de dépenser le moins possible et de ne pas faire de folie. Mais François Legault, lui, qui est finalement le décisionnel à la fin, hein, le premier ministre est tout puissant dans notre système politique, ben lui, qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il recherche l'équilibre budgétaire ou il veut faire des points rapidement, étant donné la situation vraiment terrible dans laquelle il se retrouve dans les sondages? Donc, il y a comme une espèce de tension, une tentation d'aller chercher de l'argent pour faire plaisir au monde, mais de l'autre côté, un ministre des Finances qui dit « Là, arrêtons, il faut qu'on travaille vers l'équilibre budgétaire. » Ben, ben hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de cette mise à jour-là. Une mise à jour budgétaire, en fait, une mise à jour économique, c'est comme un mini-budget. Souvent, il y a quelques annonces, mais c'est pas aussi gros là, qu'un budget du printemps.
Je m'attends aussi à ce que, pour continuer dans la thématique, taxe à l'essence, bourse de carbone, fonds vert, je pense qu'on va distribuer énormément d'argent du fonds vert en transport en commun avec la crise qu'il y a eu à la STM, avec les gens justement plus défavorisés de la société qui ont été impactés par ça. Je pense que ça va être une mesure aussi qu'on va faire du côté du gouvernement.
Je suis d'accord avec toi. Le fonds vert, ça fait déjà un petit moment. Tu sais, le fonds vert, en passant, vous êtes taxé là, sur l'essence et tout ça. Et cet argent-là s'en va dans une partie de l'argent s'en va dans le fonds vert. Et le fonds vert avait très mauvaise réputation pendant plusieurs années parce qu'il y avait toutes sortes de niaiseries qui avaient été financées par le fonds vert.
Faites juste aller voir sur Internet ce que le fonds vert a financé dans les 6-7 dernières années. Et à chaque année, vous tombez sur une ou deux absurdités, là.
Genre un projet de réintégration des gorilles en Afrique.
Oui, c'est ça, au Ouganda, là. Exactement.
Exact. Donc, il y a un ménage qui a été fait dans les dernières années dans le fond vert, un ménage qui est sérieux. Mais maintenant, il y a des gens qui disent très bien pour le ménage, mais est-ce qu'on ne devrait pas élargir l'utilisation du fond vert, notamment pour financer le transport collectif?
Ben oui.
Parce qu'on a demandé un effort important aux sociétés de transport collectif pour réduire leurs dépenses. Mais on voit que évidemment, mais premièrement, le transport collectif à Montréal, c'est pas seulement juste une option, c'est pour le fun, pour faire plaisir à la planète. Là, c'est essentiel à l'économie, puis on s'en est rendu compte avec la grève. Mais c'est une manière de soulager le portefeuille, en tout cas d'une partie de la population. Ça pourrait être d'y aller vers des prix moins élevés pour les titres de transport, ou alors même des gratuités pour certaines tranches de la population. On verra bien. Une chose est sûre, le ministre des Finances a été déçu par le budget fédéral parce qu'il avait demandé beaucoup plus d'argent pour les infrastructures. Probablement aussi que ça va influencer d'être prudent dans la prochaine mise à jour économique parce qu'il y a un peu moins d'argent au rendez-vous que ce qu'on aurait souhaité de ce côté-là.
Antonine Iacarini, c'est toujours un bonheur de te parler à chaque lundi au jeudi à midi pour le caucus avec toi. On se parle demain. Tu seras également en direct de Rimouski?
Yes!
Il fait demain. Beau là-bas à Rimouski?
Ben oui, il fait très beau, mais il vente sur le bord du fleuve. Ouais, c'est ça. Quand je suis sortie de mon auto, j'étais comme...
T'as envie, par exemple, quel beau coin sur le bord du fleuve que cette ville de Rimouski. Bonne fin de journée, Anto. Bonne formation.
À demain.
Salut, à demain. C'est Antonine Iacarini que vous entendez du lundi au jeudi dans le caucus Iacarini. On vous le rappelle, en attente de la conférence de presse de Pablo Rodriguez aux alentours de 12h45, normalement.
Ça se demandait ce qu'il va dire, Jeff. Ça se demandait s'il va prendre la position de « je n'étais au courant de rien ». Puis ça se peut que ce soit vrai.
Ça se peut.
Si c'est le cas, puis ça s'est déroulé derrière lui, il va en vouloir une couple de personnes aussi.
Ouais, puis là, des petits brownies pour voter pour lui, quand tu gagnes par même pas 5%, ça peut faire une différence. Donc, c'est vraiment un très gros enjeu pour le Parti libéral. En attendant cette conférence de presse, on va faire une pause, Pascal, et par la suite, on va parler avec Alicia Despins, parce que c'est quand même premier conseil municipal hier.
Oui.
Ça a passé un peu sous le radar. Ville de Québec, premier conseil municipal pour respect citoyen. Donc, on va parler
en de ceci. En tant qu'opposition officielle.
Exactement. Alors, on va parler de ceci avec Alicia Despins. Puis je veux parler aussi, la ville de Québec s'est vantée ce matin, s'est pété bretelles. On est la deuxième meilleure ville en Amérique du Nord pour les pistes cyclables.
Êtes-vous content?
Oui, êtes-vous content, chers auditeurs? 418-971-1021. Ça vous fait quoi de savoir qu'on est les deuxièmes meilleurs pour les pistes cyclables?
C'est sûr que quand on n'est pas capable d'avoir un transport en commun ou un réseau structurant, il faut se rabattre sur quelque chose.
Exactement. Cyclistes, restez à l'écoute. Vous êtes à l'émission Dans Jase sur Boulevard 102.